affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Clémenceau et Monet. Depuis des années où je parle de Monet, j'ai plutôt l'habitude de parler de Monet et Clémenceau. Mais en l'honneur de cette commémoration de la Première Guerre mondiale, puisque nous sommes en 2014, 1914-2014, un centenaire, j'ai inversé bien sûr mon propos et c'est Clémenceau qui sera à l'honneur. Vous avez ici justement une conférence que j'avais donnée à la Fondation Saint-Gerre-Polignac où, comme toujours, Monet est à l'honneur, à gauche Durand-Ruel, à droite Clémenceau. Vous voyez d'ailleurs Monet avec sa cigarette comme il l'a toujours, également la pipe là, dans le tableau du musée Marmottan que je mets toujours à l'honneur dans les conférences aussi à l'étranger. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce n'est pas Monet qui sera à l'honneur, c'est Clémenceau, mais rattaché à Monet et toute leur relation qui va bien sûr se développer sur des années que je vais tenter de vous expliquer. Auparavant, 1914-2014, un centenaire, que faisait Monet en 1914 ? Monet écrivait à Gustave Geffroy depuis Giverny le 1er décembre 1914. « Je me suis remis au travail. C'est encore le meilleur moyen de ne pas trop penser aux tristesses actuelles, bien que j'ai un peu honte de penser à des petites recherches de formes et de couleurs pendant que tant de gens souffrent et meurent pour nous. » C'est vous dire que Monet n'était pas du tout indifférent aux événements de l'histoire et aux malheurs rencontrés par les Français. Je continue, Monet à Gaston Bernheim-Jeune, Giverny, 21 juin 1918, puisque la guerre 14-18, ce sont nos deux dates. Merci, donc voici ce qu'écrit Monet à Gaston Bernheim-Jeune. « Merci de votre offre pour enlever mes toiles. Mais malgré tout ce que l'on peut dire, et bien que le musée de Rouen ait été mis à l'abri, je ne veux pas croire que je sois jamais obligé de quitter Giverny. Comme je l'ai écrit, j'aime encore mieux y périr au milieu de ce que j'ai fait. » Et puis une dernière lettre, la troisième pour 1918, il s'adresse à Clémenceau le 12 novembre 1918, au lendemain du 11 novembre. « Cher et grand ami, je suis à la veille de terminer deux panneaux décoratifs que je veux signer du jour de la victoire et viens vous demander de les offrir à l'État par votre intermédiaire. C'est peu de choses, mais c'est la seule manière que j'ai de prendre part à la victoire. Je vous admire et vous embrasse de tout mon cœur. » Donc, la grande question, c'est de comprendre comment les nymphéas, les grandes décorations de nymphéas sont arrivées à l'orangerie par acte de donation. Bien après la guerre, l'acte est signé en 1922, mais il est bien sûr l'élaboration des grandes décorations est due aux encouragements de Clémenceau, qui n'a cessé d'être derrière Monet à Giverny, atteint de cataracte. Et là, c'est la personnalité de Clémenceau, médecin, qui a été très importante, et également tout son rôle politique. Donc, comment cette amitié, comment s'est-elle développée ? Vous avez à l'écran Monet et Clémenceau, Clémenceau et Monet. Vous les voyez ensemble dans le jardin de Giverny, deux personnes nées à quelques mois d'écart, moins d'une année. Clémenceau est né en 1841, en septembre. Monet est né le 14 novembre 1840, donc moins d'une année. Et ils disparaîtront à 3 ans d'écart, Clémenceau survivant 3 ans à son ami Monet. Le propos, c'est de voir dès l'image que, bien sûr, c'est une amitié au soir de la vie, au soir de l'existence. Ils se sont rencontrés jeunes, d'après Clémenceau dans ses écrits, au Quartier Latin. Et puis, ils se sont retrouvés grâce à Gustave Geffroy dans les années 1880. Et à ce moment-là, ils ne se sont plus quittés jusqu'à la mort de Monet en 1926. Le premier rôle qui les a, la première intervention qui a réuni aussi Clémenceau, qui a été très importante, ce sont les cathédrales en 1895. Mais il faut noter aussi qu'un tableau externe à la production de Monet, un tableau de Manet, l'Olympia, les avait réunis en 1890, lorsque Monet avait lancé sa campagne de souscription depuis Giverny pour faire rentrer, comme il le disait, l'Olympia au Luxembourg pour venir en aide à sa veuve, la veuve d'Édouard Manet, qui rencontrait des difficultés financières, et également pour mettre à l'honneur Manet au musée du Luxembourg. Clémenceau et Monet s'étaient beaucoup rencontrés aussi. Donc vous avez l'Olympia, et plus tard, à Marc Helder, Monet pourra dire « Jamais Clémenceau ne m'a manqué quand j'ai eu besoin de lui. On connaît son intervention décisive en faveur de l'Olympia de Manet, par exemple. » C'était en 1924. Les cathédrales de Monet. Les cathédrales de Monet, 20 versions exposées chez Durand-Ruel en 1895. Je vous en montre 16. C'était les 16 qui étaient exposées à Rouen lors de la commémoration de l'exposition des cathédrales en 1995, où j'étais commissaire avec François Bergot. C'est là que Clémenceau prend la plume pour écrire un article retentissant, éblouissant, un article qui est bien meilleur que le bon nombre d'articles d'historiens d'art, où il a pris la parole et il s'est exprimé sur les cathédrales pour dire « Je ne puis résister à l'envie de m'établir pour un jour critique d'art. Je suis entré chez Durand-Ruel pour revoir à loisir les études de la cathédrale de Rouen dont j'avais eu la joie dans l'atelier de Giverny. Et voilà que cette cathédrale, aux multiples aspects, je l'ai emportée avec moi, je ne puis m'en débarrasser, elle m'obsède. Avec 20 toiles d'effets justement choisies, le peintre nous a donné le sentiment qu'il aurait pu, qu'il aurait dû en faire 50, 100, 1000, autant qu'il y a de secondes dans la vie. » Cet article sur les cathédrales, donc Révolution de cathédrale, paru dans La Justice, le journal de Clémenceau, le 20 mai 1895, et montre à quel point la sensibilité de Clémenceau était extrême et combien il a su très bien analyser exactement la spécificité du talent de Monet pour exécuter ces séries. Autant il y a d'instants, 100, 1000, c'est infini, comment l'œil de Monet, comme il le disait lui-même, l'œil de Monet est précurseur, l'œil de Monet devance ce que nous ressentons, et l'œil de Monet, c'est l'homme tout entier. Alors vous retrouvez à l'écran ces deux hommes qui se sont donc très, très souvent réunis pour parler, pour agir, pour se promener, pour évoquer des souvenirs et également pour se réconforter, notamment Clémenceau en tant que médecin lors des épreuves de cataracte de Monet et également pendant la guerre. Pour mieux les comprendre, il faut se pencher sur la correspondance de Monet et Clémenceau, de Clémenceau et de Monet. Blanche Hochedet-Monet, la belle-fille de Monet, a remis au musée Clémenceau 153 lettres datées de 1895 à 1926 qui sont conservées au musée Clémenceau et qui ont été publiées. Il y a bien sûr les lettres de Monet à Clémenceau qui réapparaissent souvent et qui se voient aussi publiées par Daniel Wildenstein dans le catalogue raisonné, dans le supplément de la correspondance à la fin du catalogue. Donc cette correspondance, je ne peux pas dans le temps qui m'est imparti vous lire de nombreuses lettres, mais je vais vous lire les en-têtes, faire défiler à l'écran et vous verrez, vous sentirez combien Clémenceau était proche de Monet. Les premières lettres sont assez inconvenues, cher vieil ami, cher bon ami, mon plus que cher ami. Et puis, mon vieux cœur, grand ami de mon cœur, mon vieil enfant, cher vieux frère, nous sentons que l'intimité s'établit. Puis, c'est une intimité teintée d'humour. Mon cher homme des bois, mon pauvre vieux maboule, écrit-il à Monet, vieux falampin, vieux hérisson, mon pauvre vieux crustacé, espèce de vieux fou, mon cher bon vieux bipède, mon vieux camarade. Et les dernières lettres, mon pauvre vieux, mon cher bon vieux, quand il sent que Monet va partir. La présence de Monet dans l'intérieur de Clémenceau à Paris, rue Franklin. À travers la correspondance, nous avons donc une idée des relations du peintre, mais il faut s'interroger sur la manière dont les deux hommes se rencontraient. Je vous dirai l'endroit le plus important où ils se sont rencontrés et qui a compté pour eux, mais je vais commencer par vous évoquer deux lieux auparavant. C'est l'intérieur de Clémenceau, rue Franklin, et c'est également sa maison de Bellaba, celle qu'il appelait la Bicoque, qui était à quelques kilomètres des Sables d'Olonne, en Vendée. La présence de Monet dans l'intérieur parisien de Clémenceau, rue Franklin, ce sont des œuvres, et c'est aussi une photographie. Photographie de Monet prise par Sacha Guitry, dédicacée, si vous pouvez le lire en bas à droite, dédiée par Sacha Guitry à Monet, puisque c'est Sacha Guitry l'auteur de la photo, et dédicacée également par Monet à Clémenceau. Cette photographie, plus important encore, trois œuvres de Monet étaient rue Franklin. Alors comme photographie, je vous montre une autre photographie de Sacha Guitry, très importante, où Monet est au bord de l'étang et où on voit justement l'importance de son œil. On voit que cette photo de 1915, où c'est un homme de 75 ans, il est décollé du fauteuil, il regarde les nymphéas, il regarde l'étang, il pense, il peint dans sa tête, il voit des motifs, il les saisit, et c'est une photo spectaculaire. Autant que ce portrait, un petit peu ce qu'on appellerait un portrait charge. Ce n'est pas une caricature, car Monet est représenté, un dessin. Vous avez d'ailleurs le S de Sacha Guitry qui fait l'oreille, et puis cet œil bien enfoncé de Monet à l'intérieur. L'intérieur de Clémenceau, rue Franklin, dans cet endroit qui est transformé désormais en musée. Vous êtes dans le bureau de Clémenceau, et une première œuvre de Monet, a fait son entrée dans les collections de Clémenceau, qui était un grand collectionneur, c'est celle que vous avez au-dessus de l'étagère, le bloc, une œuvre représentant un bloc de rocher dans la Creuse. Cette œuvre est désormais représentée aujourd'hui par une copie, car à la mort de Clémenceau, les héritiers de Clémenceau l'ont mise en vente et elle est maintenant dans les collections royales d'Angleterre, de la reine d'Angleterre. C'est donc une copie qui est dans le musée Clémenceau. Ce bloc, qui est un merveilleux caillou de lumière, comme l'a baptisé Clémenceau quand il l'a reçu en cadeau par Monet, à la veille d'un jour de Noël, en 1899, il lui a écrit en lui disant « Vous me bombardez de ce merveilleux caillou de lumière, on ne saurait remercier un rayon de soleil ». Et évidemment, il y avait une intention, car le bloc, c'est bien sûr un bloc de rocher de la Creuse, mais c'est également le souvenir de cette phrase historique prononcée par Clémenceau à la Chambre. La Révolution française est un bloc, et c'est également dans le souvenir de ce journal qu'il a créé, le bloc. Donc, première œuvre magnifique à rentrer dans les collections de Clémenceau. Deuxième œuvre, au non moins émouvante, une gondole. Gondole à Venise, qui a été donnée par Clémenceau au musée de Nantes à sa mort, léguée. Cette gondole qui était si importante pour Monet quand il s'est rendu à Venise en 1908, là d'où il écrivait à Clémenceau, toujours plus dans l'enthousiasme de Venise. Toutes les lettres partaient vers Clémenceau, puisque Alice Monet, exceptionnellement, avait accompagné Monet à Venise. Donc nous n'avons pas de lettres pour la période vénitienne de Monet vers Giverny. Ce sont les lettres vers Clémenceau et Durand-Ruel qui nous renseignent. Et nous savons que, comme à Argenteuil, où il a utilisé le bateau atelier pour peindre, comme aussi sur les bords de l'Epte, sur l'Epte, où il a utilisé une Norvégienne pour se promener et peindre les peupliers vus d'en bas, eh bien, à Venise, il avait transformé une gondole en atelier. Il peignait à partir de la gondole, et très souvent, lorsqu'il peignait les façades, comme vous avez cette peinture magnifique du Kunstmuseum de Bâle, vous voyez qu'il avait reproduit à chaque fois, il ne manquait pas de reproduire la gondole à l'arrêt. Donc, gondole qui est au musée de Nantes, près de l'Historial de la Vendée, où se tient en ce moment l'exposition Clémenceau et les artistes modernes, Manet, Monet, Rodin, où j'ai consacré un essai à Clémenceau et Monet. Cette gondole n'était pas la dernière à arriver dans l'intérieur de la rue Franklin. Il y a eu un troisième, une œuvre de Monet, non moins émouvante encore davantage. C'est le dernier autoportrait de Monet, auquel d'ailleurs Clémenceau a consacré de nombreuses lignes, en disant combien il est émouvant. Il est un petit peu traité à la manière d'un nymphéa. C'est le dernier regard de Monet. Ce tableau, Monet avait exécuté plusieurs autoportraits qu'il détruisait successivement à Giverny. Et un jour, comme Clémenceau le rapporte, au moment où Clémenceau partait, Monet lui a dit « Tenez, prenez-le, emportez-le, sinon je le détruirai ». Donc trois œuvres. C'est la présence de Monet rue Franklin. Nous ne pouvons pas assurer que Monet se soit rendu souvent rue Franklin à Paris, parce que là, Monet se rendait rarement à Paris autrement que pour voir ses marchands, Durand-Ruel, ou les ventes, ou les expositions. Et c'était plutôt Clémenceau qui fit à chaque fois la route vers Monet. Monet chez Clémenceau à Belle-et-Bois en Vendée. Ça, c'est un aspect très émouvant, car Monet, se déplaçant rarement, comme je viens de le dire, a fait la route pour venir à Belle-et-Bois dans la maison en Vendée, celle que Clémenceau appelait ma bicoque, cette maison qu'à partir de 1920, donc vous voyez à l'âge de 80 ans, Clémenceau a commencé à louer cette maison pendant quelques années et a y éprouvé beaucoup de bonheur à écrire et à avoir ce jardin, comme il le disait, qui se détachait sur la mer. Vous le voyez devant sa fenêtre, il faut imaginer un jardin et la mer devant. Vous le voyez encore ici, la fenêtre cette fois-ci ouverte. Il y a vécu, il y écrivait depuis cette table des lettres à Monet, des lettres toutes aussi magnifiques. « Mes yeux ont besoin de votre couleur et mon cœur est heureux de vous », Clémenceau écrivait à Monet depuis donc Saint-Vincent-sur-Jarre, le 17 avril 1922. Et puis, il lui écrivait également « Je vis comme vous parmi les fleurs, mais avec la mer comme fond de tableau », le 1er août 1924, ce qui est assez émouvant parce qu'en fait, c'est vrai que les fleurs se détachent sur la mer et la mer est au fond du tableau, évidemment un élément qui n'est pas présent à Giverny. Il l'invitait, Monet, à Saint-Vincent-sur-Jarre, en lui disant « La mer ici m'enchante. Je tâcherai de vous faire partager mes joies. Il y a des bleus et des verts sous la palette du ciel et de la mer. On en ferait des tableaux. Arrivez bien vite. » Donc vous voyez que là, Clémenceau se transforme lui-même en peintre. Il parle en langage de peintre et il emploie les mots de palette et de tableau. Et puis, il écrit aussi à une autre occasion « La mer est comme un ciel renversé. Il y a des constructions d'air comme dans les tableaux de Monet. » Écrit-il depuis Saint-Vincent-sur-Jarre en 1922. Donc vous voyez que lui-même regarde sa maison, regarde son jardin, regarde la mer avec les yeux de peintre. Monet vient lui rendre visite un très bref séjour avec Blanche Eugedet-Monet. Il y avait d'ailleurs une chambre d'amis qu'il a occupée. Vous voyez donc Clémenceau regardant la mer, regardant ses étendues où il a trouvé. Et quand vous regardez cette petite maison à volets vert clair, ce jardin de fleurs, au premier plan, bien sûr, vous glissez insensiblement sur le dernier lieu que je veux évoquer, qui est le plus important. Un jardin avec une maison rose à volets verts, derrière des allées d'iris, évidemment Giverny. C'est à Giverny, bien sûr, que se sont passées les principales rencontres de Clémenceau et de Monet. C'est Clémenceau qui faisait la route vers Monet, soit depuis Paris, en prenant une voiture, soit depuis Bernouville, lieu en Normandie, un petit peu éloigné de Giverny vers le nord, à partir de 1908, où Clémenceau acquit cette propriété, il venait à Giverny. Et là, il n'était plus, si l'on peut dire, un peintre, il était un jardinier. Les deux hommes s'échangeaient des fleurs. Je vous lis une lettre de Monet depuis Giverny, 29 septembre 1923. « Je vous adressais un panier de plantes au Brescia. C'est la bordure violette que vous aimez. Je pense qu'elle viendra bien chez vous. » Alors, ces paniers de fleurs, ils étaient adressés soit pour Saint-Vincent-sur-Jard, soit pour Bernouville. Clémenceau venait donc en voiture à Giverny. Il se rendait, vous voyez ici donc la Giverny, vous voyez que tous les lieux sont rappelés, donc Monet partant de Paris, s'éloignant de plus en plus, Argenteuil, Vétheuil, Giverny, les trois stations du pèlerinage vers les lieux de Monet, et évidemment vous voyez aussi Rouen, lieu de la cathédrale de Rouen, qui avait évidemment réuni Clémenceau et Monet lors de cet article. Il faut imaginer que dans la salle à manger de Giverny, qui a donné lieu à de nombreux déjeuners, ont été réunis le 28 novembre 1894, rien moins que Clémenceau, Gustave Geffroy, Octave Mirbeau, Rodin, Cézanne. C'est-à-dire une table magnifique, deux artistes, Rodin et Cézanne, deux personnages, plutôt écrivains, mais qui avaient bien d'autres aspects, c'est-à-dire Gustave Geffroy, qui était administrateur du mobilier national des Gobelins, Gustave Geffroy et également Octave Mirbeau, et puis Clémenceau, homme politique, mais totalement doué de multiples talents, comme le montre l'exposition de l'Historial de la Vendée. Et à cette occasion, d'ailleurs, je vous lis aussi une lettre de Monet sur Clémenceau, car il ne faut pas lire que les lettres de Clémenceau à Monet. Monet écrit à Gustave Geffroy le 8 décembre 1919. Clémenceau est toujours fidèle et vient souvent me voir. Cela lui semble faire du bien de venir causer d'autres choses. Et en même temps, il me réconforte. Quel homme! Et c'est cette lettre qu'il a écrite parlant de Clémenceau lorsqu'il a été nommé en 1917 avec le haut pouvoir. Le 26 novembre 1917, Monet écrit au frère Bernheim Jeune « Et voilà donc mon vieux Clémenceau au pouvoir. Quelle charge pour lui. Puisse-t-il faire de la bonne besogne malgré toutes les embûches qui vont lui être créées. Quelle belle énergie tout de même. » Vous avez sous les yeux la salle à manger de Giverny. Vous avez vu évidemment son aspect moderne. Et là, nous devons rendre grâce et vraiment à Gérald van der Kemp et Florence van der Kemp qui ont remis en état les lieux en 1980, précisément au moment où j'étais d'ailleurs commissaire de l'exposition L'Hommage à Monet, ce qui m'a beaucoup lié à Gérald van der Kemp à l'époque, et qui a remis sous l'autorité de l'Académie des Beaux-Arts les lieux en état et qui maintenant sont sous l'autorité du GAL, membre de l'Institut. Ici, vous allez avoir une série de photographies anciennes qui ne seront pas forcément très nettes, mais j'ai tenu à les mettre afin que vous ayez l'impression de vous promener dans les allées de Giverny en compagnie de Clémenceau et de Monet. Ces promenades, elles ont été nombreuses. Clémenceau donc venant souvent, ils adoraient voir. Clémenceau aimait voir en était le travail, en était les nymphéas, ces grandes décorations que Monet eut l'idée de donner à l'État et de devenir ainsi un grand peintre, un des peintres les plus aimés des Français, sinon le peintre le plus aimé des Français, et d'être celui qui avait donné à l'État pour fêter la victoire ces grandes décorations de nymphéas qui ont été inaugurées après sa mort. Vous avez ici à l'écran les deux hommes, Clémenceau et Monet, et vous voyez à l'arrière-plan Blanche Eugedet-Monet, celle que Clémenceau appelait l'Ange Bleu, qui était donc la fille d'Alice Eugedet, la deuxième épouse de Monet. Vous avez ici une autre visite, vous voyez ici une japonaise. Vous savez que le Japon est très présent à Giverny avec l'étang aux nymphéas, avec la collection de 231 estampes japonaises et également les visites des Japonais très importantes qui envoyaient des estampes aussi, qui en offraient à Monet. Si Monet n'est jamais allé au Japon, le Japon est venu jusqu'à Giverny. Madame Kuroki, que vous voyez ici de dos, ce qui est particulièrement saillant, puisque l'intérêt important dans la robe, dans le kimono japonais, c'est le hobi, c'est le nœud, à part l'arrière. Et vous voyez le Clémenceau aussi de dos, avec ses bottes. Vous voyez bien aussi que Monet est dans un costume tout à fait différent, accueillant Clémenceau à Giverny. Un gros plan où vous voyez que Blanche Desmonets, celle que donc Clémenceau appelait l'ange bleu, celle qui s'était rendue aussi à Belle-et-Bas en Vendée, est entre les deux hommes. Elle était souvent l'intermédiaire, c'est elle qui justement organisait les repas, c'est elle qui convenait des visites, c'est elle qui appelait Clémenceau pour dire l'état de santé de Monet après ses trois opérations des yeux. Ici, Gustave Geffroy et Monet. Pour Gustave Geffroy, je l'ai voulu vous le montrer, puisque justement, c'est lui qui a permis à Clémenceau et à Monet de se retrouver dans les années 1880, administrateur donc des Gobelins, également écrivain, et qui consacra l'un des plus beaux ouvrages à Claude Monet, sa vie, son œuvre, un des premiers, dans les années 1920. Une des photos où vous voyez Clémenceau et vous voyez Monet sur le pont, sous la glycine, qui peut évoquer d'ailleurs ces lettres qu'adressait Monet à Clémenceau pour l'inviter à Giverny. Il lui expliquait « Venez vite, le jardin est en fleurs, il va défleurir ». Et il lui écrivait « La glycine n'a jamais été aussi belle et par cette chaleur, elle ne durera pas longtemps, le 22 mai 1922 ». Vous voyez les deux hommes qui s'éloignent. L'aventure va évidemment, si l'on peut dire, prendre fin. La raison pour laquelle ils se sont tant reconnus, tant aimés, se rencontrés dans les dernières années, vous l'avez à l'écran, je suis aussi fou que vous, mais je n'ai pas la même folie, voilà pourquoi nous nous entendrons jusqu'au bout. C'était donc deux personnalités originales qui avaient beaucoup d'humour, c'est sensible dans leurs lettres, et c'est cette dernière lettre qu'écrit Clémenceau à Monet le 21 septembre 1926. Auparavant, le 17 septembre, donc quelques jours avant, il a écrit une très belle lettre où il a écrit « Bonsoir Monet, travaillez, travaillez, c'est la plus belle chose qui soit au monde ». Donc vous voyez que les dernières lettres sont particulièrement émouvantes. Ce jusqu'au bout, c'est la mort. La mort dans la chambre de Monet à Giverny. Vous l'avez ici reconstituée selon la volonté du Gall, qui a souhaité que soit remis en état la chambre, non pas contre l'aspect qui avait été établi par Charles van der Kemp, qui est ici, vous la voyez ici, où en 1980, atelier et chambre avaient été remis à l'honneur, mais sans pouvoir disposer des connaissances qui permettaient d'aller beaucoup plus profondément dans la reconstitution, puisque le catalogue de Daniel Wildenstein n'était pas paru, il commençait trois tomes jusqu'en 1980 et les tomes suivants en 1986, et puis l'étude des toiles qu'avait possédé Monet, c'est-à-dire ses amis, n'était pas non plus aussi bien conduite que depuis 40 ans. J'avoue y avoir aussi consacré beaucoup de temps depuis 40 ans. Mais ici, donc, Hugues Gall, évidemment ancien directeur de l'opéra, très sensible au décor, a souhaité que Giverny soit orné de copies. Copie n'est pas le bon terme, le terme c'est réplique, réplique à l'huile, exécutée par la galerie Trubetskoy, réplique à l'huile sur photographie, pour rappeler que Monet s'endormait le soir, non pas en regardant ses œuvres, mais celles de ses amis. Vous avez Cézanne, vous avez Berthe Morisot, vous avez Jonquing, les premiers temps, Boudin et Jonquing, Manet et également Caillebotte, que vous voyez. Donc dans ce lit, le 5 décembre 1926, Monet ferme les yeux. Et c'est là que Blanche appelle aussitôt Clémenceau. La légende veut qu'il aurait lui-même fermé les yeux de Monet. Et bien sûr, Sacha Guitry rappelle qu'il se serait écrié cette phrase devenue célèbre, « Pas de noir pour Monet », en se jetant sur le catafalque noir, en l'enlevant et en le replaçant par une étoffe fleurie qui serait soit un dessus de lit, soit un rideau. 8 décembre. La dépouille de Monet est portée en terre à Giverny. Elle est portée, évidemment, selon son souhait. Son souhait, c'était sans cérémonie religieuse, simplement comme un enfant du pays, en traversant sur une charrette à bras le village de Giverny. Le souvenir de Claude Monet, vous avez à l'écran, c'est la page de l'Art vivant du 20 janvier 1927, c'est-à-dire celle qui fait part à toute la France, à tout l'univers, à tous les artistes, celle qui fait part de la mort de Monet. Or, vous voyez que sur cette page en entier, eh bien, Clémenceau y est présent deux fois. Il est présent à mi-hauteur, à droite, côte à côte avec Monet, cette photographie avec Blanche Augedet à l'arrière-plan. Et si vous regardez, et vous voyez le jardin de Monet au centre, et si vous regardez le bas de la page, vous voyez qu'il est nommé. Il est nommé, et son ami Clémenceau. Il est dans le cortège, il faut vous imaginer qu'il est là, il est dans le cortège funèbre, absolument effondré, pour aller jusqu'à la tombe à Giverny, cette tombe qui est celle d'une famille recomposée, la famille Hoche des Monnaies, avec toute la tombe, et où est descendue donc la dépouille de Monnaie, née le 14 novembre, mort le 5 décembre, regrettée de tous, et lieu de pèlerinage aujourd'hui pour les visiteurs. Une photographie existe, très intéressante, qui vous montre à gauche l'étoffe claire, c'est le cercueil de Monnaie, prêt à descendre dans la tombe. À droite, vous avez Clémenceau absolument effondré devant la dépouille de son ami. Mais Clémenceau n'est pas pour rien le tigre, il va se reprendre. Après la mort de Monnaie, trois événements, si on peut dire de plusieurs manières différentes, il ne va pas lâcher Monnaie. Il va d'abord regarder, bien entendu, beaucoup les grandes décorations de Nymphéa, auxquelles Monnaie a travaillé en 1914, comme il le disait, alors qu'il venait de faire construire ce grand atelier, qui est aujourd'hui la boutique de Giverny, qui a l'éclairage zénital avec ses stores qui sont maintenant aussi reconstitués. Eh bien, ce grand atelier où Monnaie travaillait, semblant presque s'excuser, alors que tant de gens, comme il le disait, souffrent et meurent, mais il est vrai que pendant la guerre, il est dommage que les guerres nous enlèvent un artiste comme Basile ou un écrivain comme Peggy, et les artistes, c'est très bien qu'ils travaillent, qu'ils continuent parce qu'ils expriment la France, ils expriment un pays, ils expriment une sensibilité. Et ces grandes décorations de Nymphéa, dont l'acte de donation a été signé en 1922, après la mort de Monnaie qui ne voulait pas qu'elle soit montrée de son vivant, Clémenceau va s'en charger. Il va les faire transporter à l'Orangerie. L'inauguration aura lieu le 17 mai 1927, donc quelques mois après la mort de Monnaie. Clémenceau est dans le cortège des officiels, bien sûr. Vous avez ici les salles de l'Orangerie. Cette Orangerie qui a été remise en valeur maintenant avec l'ablation du toit avec l'étage qui avait été consacré à la collection Walter Guillaume. Mais maintenant, nous redisposons dans ces deux salles de l'Orangerie, dans ces deux salles ovales, comme les appelait Paul Claudel, eh bien, nous disposons d'un éclairage zénital comme à l'origine. Je vous montre une photo justement tout à fait récente pour vous montrer le panneau. Et puis, j'y ajoute la photographie de Musée Marmottan. Car le Musée Marmottan, c'est très important. C'est lui qui a accueilli la donation, le legs de Michel Monnaie lorsqu'accidenté sur le pont de Vernon en 1966. Le testament a été ouvert pour découvrir que Michel Monnaie, le second fils de l'artiste, remettait à l'Académie des Beaux-Arts non seulement la propriété de Giverny, mais également les œuvres se trouvant à l'intérieur de la propriété ou bien à Sorel-Moussel dans sa maison où il les avait abritées. De nombreux nymphéas existaient, ils sont accrochés dans le sous-sol, dans ce qu'on pourrait appeler le sous-sol, dans la salle magnifique, la rotonde du musée Marmottan, cette rotonde qui a été créée par Jacques Carlu, architecte membre de l'Institut, qui de 1977 à 1980 a aussi eu la charge avant sa mort, a eu la charge de Giverny et a créé très intelligemment, alors qu'il était à la tête de musée Marmottan, cette rotonde pour abriter, et pourquoi je vous la montre, parce que Clémenceau, dans son article des cathédrales, avait terminé en s'attristant de la dispersion de la série, et il avait dit justement, c'est dommage, une série justement s'est faite pour un grand coup d'œil circulaire, pour avoir l'impression générale. Et c'est exactement l'impression que vous avez évidemment l'Orangerie. Mais lorsque je fais des conférences à l'étranger, j'insiste beaucoup sur la richesse du musée Marmottan Monet, qui porte le nom de Monet, qui contient 100 peintures de Monet, bien plus riche que le musée d'Orsay, et qui en même temps présente tout à fait avec ces nymphéas que nous n'avons pas à Orsay, sauf un grand panneau des nymphéas bleus, présente ces études de nymphéas qui sont liées et totalement associées à la réalisation des grandes décorations de l'Orangerie. Clémenceau ne va pas se satisfaire seulement de continuer l'œuvre des grandes décorations, de continuer ce travail, de faire aboutir ces longues négociations, puisque les grandes décorations des nymphéas, il était question à un moment de les exposer au musée Rodin, il a été question du musée des arts décoratifs, et c'est enfin à l'Orangerie où Monnaie lui-même s'est dérangé pour venir voir les deux salles qui pouvaient abriter ces grandes décorations, ce qui est particulièrement réussi, puisque comme je vous l'ai montré sur la carte, Monnaie s'est toujours déplacé le long de la Seine. Paris, Argenteuil, Vétheuil, Giverny, eh bien, c'est très bien que ces œuvres soient en plein cœur de Paris, car la place de la Concorde est totalement centrale, et que ces deux salles soient le long de la Seine, ce qui est tout à fait en accord avec le parcours de Monnaie. Clémenceau donc ne va pas se satisfaire de ces négociations qui étaient déjà bien entamées, il n'a fait que continuer. Il s'est assis à sa table de travail et en écrivain, il a écrit un livre magnifique, Claude Monnaie, Les Nymphéas, librairie Plon, qu'il a écrit, qu'il a terminé un an avant de mourir en 1928. Dans ce livre, vous avez des extraits évidemment de ses impressions sur l'homme. J'y ai beaucoup puisé. Et si je cite d'ailleurs très souvent les extraits de lettres et les extraits de livres, c'est que les sources nous permettent de ne pas nous tromper. Il est inutile de parler en analysant. Il faut au contraire mettre à l'honneur les lettres, la correspondance et les témoignages. Alors, nous arrivons à la fin de la vie de Clémenceau. Clémenceau va exactement avoir la même mort que Monet. Monet est mort dans son lit, à Giverny. Eh bien, c'est exactement la mort que va avoir Clémenceau dans son lit, rue Franklin, le 24 novembre 1929. Donc, 3 ans après Monet. Or, il faut se rappeler une lettre que je vais vous citer, mais auparavant, je vous montre cet autre portrait de Monet, Monet en peintre. La palette à la main, le pinceau, il est dans l'argenteuil, vous reconnaissez, on connaît le rideau, ce tableau qui est au musée d'Orsay. En quelque sorte, c'est le tableau de Monet peintre. En général, il ouvre mes conférences à l'étranger et je passe aussitôt le tableau que je vous ai montré en ouverture de Monet lorsqu'il fume la pipe et qu'il lit ce tableau magnifique peint par Renoir encore au musée Marmottan, qui montre les aspects de Monet peintre et Monet dans la vie quotidienne. Donc Monet est peintre, mais présenté en peintre, il l'a été aussi par Sacha Guitry. Vous le retrouvez ici avec le pinceau à la main et cette amusante palette au premier plan. Donc vous retrouvez cette silhouette. Or, le 15 septembre 1922, Clémenceau a écrit à Monet une lettre magnifique. Il ne pouvait pas imaginer être séparé un jour de Monet. Il a eu le pressentiment que Monet allait le devancer dans la mort. Monet était plus âgé, mais à peine, puisqu'ils étaient dans la même année. Et voici ce que Clémenceau écrit à Monet le 15 septembre 1922. « Vous mourrez en faisant de la peinture, et le diable m'emporte en arrivant au paradis si je ne vous retrouve pas un pinceau à la main. » On peut imaginer que effectivement que Monet a accueilli Clémenceau au paradis, dans ce jardin fleuri, dans un jardin encore plus beau, encore plus plein de couleurs, encore plus odorant que Giverny, si la mort est bien l'exaltation des sens, de ces sens que célèbrent et qu'exaltent les œuvres des artistes, que ce soit par le toucher, la sculpture, la vue, la musique. On peut imaginer une musique céleste des anges. Et j'aime à penser donc que Monet est arrivé en accueillant Clémenceau dans le paradis, qu'ils se sont retrouvés, qu'on peut imaginer une rencontre des âmes. Et aujourd'hui, en 2014, alors que nous fêtons le centenaire de la Première Guerre mondiale, c'est Clémenceau, alors qu'il est évoqué, et bien sûr, et très présent dans ce centenaire de la Première Guerre mondiale, qui associe également Monet, qui a voulu aussi s'y associer par cette donation des grandes décorations des nymphéas à l'orangerie, et je suis sûre que s'ils nous voient de là-haut, ils sont heureux de voir que leurs deux noms sont à nouveau réunis et prononcés, Clémenceau et Monet.
Je vous remercie beaucoup, c'était absolument passionnant. Passionnant, nous aimons tous Claude Monet, nous connaissons peut-être moins Clémenceau, enfin il est très 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 célèbre, mais c'est évidemment surtout le peintre qui nous intéresse, et vous nous avez montré cette amitié qui est tout à fait remarquable. Est-ce qu'il y a, peut-être quelques questions Oui, professeur Binet.
Oui, une fois de plus, je vous félicite et je vous remercie. J'aurais voulu avoir vos commentaires sur 3 points. Quand Monet a quitté Giverny pour aller à Venise, c'était assez mystérieux parce qu'il était complètement collé aux nymphéas. Et brusquement, il a envie de quitter Giverny. Giverny, c'était les nymphéas, d'emmener sa femme, qui ne le quitte pas, et de peindre quelque chose qui ne correspondait plus à ces nymphéas, qui était quand même la perspective de Venise avec tout ce que vous nous avez montré, la gondole. Alors, pour Pierre Schneider, il interprète cela comme un espèce de comme s'il voulait se rendre compte qu'il peignait toujours aussi bien la perspective et les paysages. On fait comme si les nymphéas n'étaient plus des paysages, c'est un peu autre chose. Alors ça, j'aurais voulu avoir votre sentiment là-dessus.
Selon la démarche qui m'est habituelle, comme j'ai écrit aussi un essai sur Monet à Venise pour l'exposition Turner-Whistler-Monet, Donc j'ai travaillé les sources, et les sources parlent. Octave Mirbeau, tout le monde, si on lit bien la correspondance, pourquoi Monet est allé à Venise? Il y est allé pour la même raison qu'il est allé un jour à Madrid voir les Velázquez. À Madrid, il est allé voir la peinture de Guardi, de Canaletto. Il est allé voir une ville et des musées qu'on ne voit qu'à Venise. Et c'est la même phrase qu'il a prononcée quand il est allé à Madrid. Il est allé 4 jours à Madrid, une conférence que j'ai faite à la Casa Velázquez il y a quelques années, et j'y suis retournée récemment faire la même conférence au Prado aussi il y a très récemment. Et c'est une démarche de peintre voulant voir des œuvres, la même démarche que Claude Abeille proposant à Amsterdam ou proposant d'aller voir des œuvres à Bruxelles. C'est-à-dire, c'est une démarche de peintre. Ça n'a rien à voir, à mon avis, Pierre Schneider. Je ne veux pas critiquer, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec les nymphéas. Il travaillait les nymphéas, et s'il a emmené Alice Monet, alors ça, c'est une autre histoire. En fait, il vivait très proche d'Alice Monet, mais il ne l'emmenait jamais. C'est-à-dire qu'il partait toujours, sauf à Madrid et sauf à Venise, bien sûr, puisqu'il allait voir des œuvres dans des musées. Donc, il voulait aussi faire partager cette vision à Alice Monet. Et ça n'est pas une campagne de peinture. Dans les deux cas, Venise, il y a travaillé, mais à Madrid, il n'a pas peint. Donc, il a associé Alice aussi, parce que nous sommes en 1908 et Alice meurt en 1911. C'est donc 3 ans avant la mort d'Alice. Et qu'Alice venait de perdre en 1899 sa fille, Suzanne Augillet, la femme à l'ombrelle. Donc, ne s'est jamais remise de cette mort et qu'elle était triste à Giverny et que Monet n'a pas voulu partir seule pour Venise où ils étaient invités. Donc, à mon avis, il ne faut chercher aucun lien avec les nymphéas.
Merci. Alors, deuxième question, c'est pourquoi vous avez dit, et tout le monde pense, et je crois que vous avez sûrement raison, que c'était devenu le plus populaire des peintres français. Mais on oublie la formidable résistance que lui ont posée les Français. Et ça, c'était la gloire de Clémenceau, parce que ça a été difficile de le faire admettre, et qu'ensuite, il y a eu la position anti-française très violente d'André Lhote. Or, André Lhote, oui, mais ça va dans la succession. André Lhote était l'homme de Gallimard. C'était l'homme de Paulhan. Paulhan, c'est pas n'importe quoi en peinture. C'était aussi l'homme de Braque. Mais Paulhan a écrit des choses abominables sur Monet Anafin. Mais abominables, que j'ai oublié, mais vous avez lu les lettres. Abominables. Et ensuite, quand les nymphéas ont été installés, vous savez qu'après la guerre, bon, c'était pas tellement populaire en France. Et il y a eu un autre relais qui a été celui des peintres américains, des GI qui venaient en France, qui ont beaucoup aimé les nymphéas, qui étaient mal montrés, car très souvent, après la guerre, on a montré devant les nymphéas d'autres peintures. Parce que, je ne sais pas pourquoi, ça faisait partie du décor, et comme ils avaient besoin du besoin. Et les peintres américains, qui allaient être des grands abstraits, au lieu d'attaquer les Français, ont eu cette espèce d'élégance américaine d'attaquer le conservateur du musée d'art moderne de New York, qui avait une des, j'ose pas dire des nymphéas, parce qu'elle n'était pas à Giverny, mais une peinture de la même époque, qui était mal montrée, et ils ont demander au conservateur du musée d'art moderne de New York de la présenter correctement. Et maintenant, alors que ce sont des œuvres qui sont beaucoup moins importantes que l'ensemble des nymphéas, maintenant ils sont montrés admirablement. Alors, il faut quand même voir que Clémenceau se battait contre des gens. C'était pas le grand vainqueur de 18. D'ailleurs, le grand vainqueur de 18 n'a pas été réélu. Non, Clémenceau n'était pas aimé de tous les Français. Mais il y a eu une bataille qui a duré très longtemps. Et ça, je trouve ça très intéressant, c'est que comme il est mort très tard, il y a eu très longtemps des grandes résistances à Monet. Expliquez-nous un peu les horreurs d'André Lhote.
Alors, je vais vous ennuyer beaucoup, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous.
Alors, vous avez lu André Lhote?
Alors, je l'ai non seulement lu, mais j'ai fait un livre. Donc j'ai écrit un livre exprès, quand l'Orangerie a rouvert en 2006, un livre qui s'appelle, et je regardais si j'avais la couverture du livre, mais par modestie, je l'ai enlevé. Je l'avais laissé récemment, où j'ai fait une communication pour montrer justement l'importance. Et puis là, ici, comme vous me connaissez tous et mes livres, je l'ai enlevé. Donc ça s'appelle « Regard sur les nymphéas » de Paul Claudel à André Masson, préfacé par Yves Pouliquen de l'Académie française. Parce que justement, c'est l'importance d'un œil. Professeur Pouliquen est ophtalmologue, je le connais depuis très très longtemps. Et c'est lui qui a préfacé. J'ai fait ce livre pour montrer lors de la réouverture au musée de l'Orangerie que les Français ont toujours, il ne faut pas exagérer, soutenu Monet. Il y a 2 témoignages très négatifs. Vous avez nommé Jean Paulhan, mais les 2 pires, c'est André Lhote qui a traité les nymphéas de Ophélie de la peinture, ce qui est une horreur. bien sûr. Et puis, il y avait l'autre personne, c'était Paul Morand, qui avait fait un article absolument dans l'Art vivant, et tous ces articles sont reproduits dans mon ouvrage, qui avait fait j'aurais pu l'apporter d'ailleurs aujourd'hui, qui avait fait un article absolument terrible en parlant de ce cadeau terrible fait à la France, de ce cadeau affreux fait par Monet en offrant les nymphéas. Ce sont les deux seuls témoignages, mais mon livre, justement, est appelé de Paul Claudel à André Masson, pour prendre le témoignage d'un écrivain, Paul Claudel, qui, dans la conversation sur le Loir-et-Cher, a consacré deux textes où il a montré que les Français, que la beauté des nymphéas, c'est lui le premier qui a été un des premiers visiteurs et qui s'est intéressé en 1927-28, qui s'est intéressé aux nymphéas. Ça, je pourrais vous redonner, il est dans la Pléiade, évidemment, il y a deux endroits différents, d'ailleurs, dans les conversions de Loir-et-Cher. Et puis, également, j'ai terminé en disant de Paul Claudel à André Masson, dans le sous-titre, parce qu'André Masson est un peintre français, qui a appelé pour montrer l'importance de l'orangerie, il l'a appelé la Sixtine de l'impressionnisme. L'impressionnisme, on ne le voit pas très très bien, si on peut dire, dans les nymphéas. C'est une peinture décorative, ça n'est pas l'impression soleil levant. Mais il l'a tenu à l'appeler la Sixtine de l'impressionnisme, donc lui donnant un certain nom de chapelle, pour montrer le caractère sacré de l'endroit. Or, ce nom de chapelle a été utilisé par de nombreuses personnes. Alors, évidemment, là où vous avez totalement raison, parce que je suis d'accord avec vous sur le fait de l'importance pour les peintres américains. Mais il ne faut pas exagérer aussi, les peintres français, les musiciens français, tout le monde allait voir les nymphéas. Alors, là où vous avez raison aussi, c'est d'insister sur le côté international, l'aura américaine. Je peux vous dire que j'ai été conservateur au musée du Jeu de Paume et de l'Orangerie, comme vous l'avez dit, j'avais mon bureau pendant 6 ans, et c'était passionnant parce que les visiteurs à l'époque de l'Orangerie, c'était vraiment... J'étais un soir à l'opéra, j'écoutais un opéra, il y avait Placido Domingo, et le lendemain matin, j'arrivais, Hélène Adhémar me disait, Sylvie, il faut accueillir Placido Domingo, il a une heure à consacrer à Paris, il vient voir les nymphéas de Monet. Bon, et donc il y a une aura internationale, mais également une aura, j'ai aussi des artistes français qui sont venus se ressourcer de mon affaire. Donc moi, je défends toujours la position selon laquelle les impressionnistes ont été aussi aimés en France. Ils sont partis en Amérique à cause de Mary Cassatt, qui avait un frère, Alexander Cassatt, à Philadelphie, et qui a fait partir des collections, et qui également conseillait Louise Hinaf Meyer, qui disait de Mary Cassatt qu'elle était la marraine de l'impressionnisme, et qu'elle était sa marraine à elle, et que c'est comme ça que les collections ont été constituées. Inutile de vous dire que la qualité des collections Hinaf Meyer, puisqu'il y avait l'œil de Mary Cassatt, et de Durand-Ruel en 1886, avec sa première exposition à l'étranger. Mais les Français ont aimé, il y a eu des collectionneurs, il y a eu, comme le disait Théodore Duret dans ses écrits, il y a eu une chapelle de fervents, il y a eu des contes de Camondo, il y a eu Caillebotte, il y a eu... Donc si vous voulez, je ne souhaite jamais dire dans les écrits que l'impressionnisme n'a été aimé qu'en Amérique et que les Français n'ont pas compris Monet. Je trouve que ça, c'est une formule un petit peu abrupte et qui finalement en devient fausse. Enfin, voilà comment je vois d'après ce que je vois dans les écrits.
Non, vous avez sûrement raison, j'ai caricaturé. Mais simplement, je voulais signaler quand même ce point-là.
Mais vous n'êtes pas le seul,
Ce...
Et puis, il y avait un troisième point. J'avais noté 3 points. Oui, mais ça, elle est très cultivée, et ça m'attriste, parce que justement, je vais toujours contre, elle est cultivée aussi par ce tableau de la terrasse à Sainte-Adresse, qui est magnifique, qui est un chef-d'œuvre de Monet, qui est parti très vite outre-Atlantique, dans une collection qui, après, a été acquis dans les années 1960 par le Metropolitan Museum de New York, et effectivement, les Français ou les personnes qui vont se promener à l'Art Institute de Chicago ou au Metropolitan Museum de New York, ou au musée de Shelburne, dans les États-Unis, il y a de magnifiques tableaux impressionnistes. Mais moi, je trouve que ce sont des ambassadeurs du goût français. Je trouve que je ne suis pas du tout opposée à ce que les musées américains aient des collections très importantes de peinture française. Nous avons bien, nous, des Turner au Louvre, nous avons bien des Goya, nous avons bien des peintres Velasquez. Enfin, si vous voulez, nous aimons avoir des peintres étrangers, donc cela ne me choque pas. Et sur toute la production française, ce qu'il faut maintenant, c'est évidemment retenir les œuvres. C'est la défense du patrimoine aujourd'hui, et notamment à chaque fois au musée d'Orsay, depuis que j'y suis, depuis 1980, chaque fois qu'une toile passe en vente, et d'essayer de la protéger et de voir si nous pouvons la retenir. Ça a été le cas des villas Bordighera, qui ont été acquises par Le Garn pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, on a réussi à trouver le moyen de les garder au musée d'Orsay, alors qu'elles n'étaient qu'en dépôt. Donc là, actuellement, aujourd'hui, maintenant, la réaction est là. Nous ne laissons pas partir les œuvres, mais ce qu'il faut, c'est les moyens financiers d'acheter l'impressionnisme, puisque justement, pour acheter une toile de Venise, qui est la seule lacune au musée d'Orsay, ben, il faut maintenant des moyens que le musée d'Orsay n'a plus. La dernière vente qui a eu lieu en juin, la toile de Venise, qui était magnifique, est partie, évidemment, sans pouvoir être acquise par les musées nationaux. Il faut des dations, maintenant. Nous n'avons plus, pour enrichir pour l'impressionnisme, il n'y a plus que les dations et les donations.
Merci beaucoup.
Je voulais aussi vous poser une autre question. Alors, je vous cite. C'est une question à propos de la photographie. Cette aptitude à décomposer la lumière par l'œil et le pinceau amène le peintre à dépasser la traduction de l'impression ressentie au contact de la nature pour rechercher le caractère d'instantanéité du paysage. Alors, je me demande si, parce que c'est quand même la photographie, c'est un instantané, est-ce que il y a des rapports, est-ce que Monet a des rapports avec la photographie ou...
Alors, très fort, vraiment très intense, et d'ailleurs, je le souligne très souvent quand je commente une œuvre. Par exemple, le meilleur exemple que je trouve, c'est Le Grand Déjeuner sur l'herbe. Bien sûr, j'ai tout ça, je ne l'ai pas dans ce fichier-là. Le Grand Déjeuner sur l'herbe, quand vous voyez la nature morte au premier plan et que vous voyez la nappe où il y a les objets, vous voyez un personnage féminin qui tend l'assiette. Or, le geste est suspendu. C'est-à-dire que dans l'œuvre de Monet, cette instantanéité qu'il montre dans les séries avec ses différents scintilles, finalement, il l'avait très jeune. Il l'avait très jeune car il a très souvent peint des choses très posées, mais des gestes. Il n'y a rien de plus rapide que poser une assiette, et bien le geste est suspendu. Donc il a un regard photographique lui-même en exécutant l'œuvre. Et également, il y a eu des lettres de Monet où il a parlé évidemment de Nadar, où il a demandé que Nadar vienne. Il a eu une des photographies par Nadar, mais il a dit « Je refuse de poser, je souhaite que ce soit naturel ». Donc il y avait l'instant. Et l'instant également, puisque vous me donnez la parole, je dirais que de nombreux étrangers, de nombreux historiens d'art américains ou anglo-saxons, tels même je peux nommer Richard Thompson, avec qui j'ai travaillé pour l'exposition Monet au Grand Palais en 2010, ont un point de vue que je pense erroné, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a le peintre de l'impression soleil levant, le peintre de l'impressionnisme, et ensuite lui tournant le dos, le peintre des séries qui a une profonde rupture due à la campagne de souscription de l'Olympia. Pour moi, il n'y a aucune rupture. Il y a aucun un peintre qui fait l'impression soleil levant, c'est un instant, un coucher de soleil, c'est un instant saisi, mais en même temps, quand il fait les séries, c'est parce qu'il veut de plus en plus rendre l'instantanéité ou l'instant le plus bref possible. Donc, à mon avis, c'est plutôt un affinement de la sensation du peintre, une sensibilité, plutôt que de tourner une rupture ou de tourner le dos à l'impressionnisme. C'est l'impressionnisme qui l'a conduit à devenir peintre des séries. Donc, il n'y a pas de rupture, il y a un affinement de la sensation. Enfin, vous êtes artiste plus que moi, donc... Moi, c'est comme ça que je sens le processus de création chez Monet.
Est-ce qu'il y a d'autres...
Oui, madame. Clémenceau écrivait effectivement de très, très, très belles lettres, et pas seulement à Claude Monet, et notamment à une dame beaucoup plus jeune que lui. Et ces dernières lettres sont particulièrement émouvantes. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette personne?
Alors là, non, je crois que je... Je capitule. J'ai beaucoup lu les lettres. Je n'ai pas lu les lettres à cette personne, entre guillemets. J'ai un peu l'impression qu'on repart dans une autre direction. J'ai lu quand même, j'ai lu certaines lettres, mais je ne peux pas dire vraiment, parce que si vous voulez, moi, s'il y a un petit peu un côté chez moi, je parle très facilement d'un domaine où je suis à l'aise et que je connais, mais là, je ne voudrais pas dire des bêtises sur un domaine que je n'ai pas travaillé du tout. Je vois bien à quoi vous faites allusion. Vous avez vu, justement, c'est pourquoi j'ai insisté sur la photo de Clémenceau à Belle-et-Bas et sur la photo de la table de travail de Clémenceau rue Franklin. C'est un homme qui était dans l'action, c'est un homme qu'on voit très souvent aussi à casqué, qu'on le voit sur le champ de guerre. C'est un homme qu'on voit à la tribune, qui a été peint par Manet. C'est un homme qu'on voit, mais vraiment sous des aspects caricaturés. C'est d'ailleurs la richesse du catalogue de l'historiel de Vendée, c'est de couvrir tous les aspects. C'est un homme qui, en même temps, a aussi collectionné non seulement les artistes de son temps moderne, Manet, Monet, Rodin, mais qui a collectionné l'art asiatique, qui a beaucoup voyagé. Il avait invité Monet en Grèce, et puis il est allé le suivre. Il est allé le retrouver à Londres avec Gustave Geffroy. Donc c'était un voyageur. Oui, on ne sait pas ce que Clémenceau ne faisait pas. Et puis, quand il a collectionné l'art asiatique, ça donne lieu justement à cette exposition qui va ouvrir bientôt au musée Guimet à Paris. Et il y aura un colloque le 20 et 21 mars où je parle justement encore une fois de Monet, de Clémenceau et Monet. Donc si vous voulez, ces lettres de Clémenceau, elles sont une partie importante de Clémenceau. Si vous voulez que je vous en parle, c'est comme ça que je vois l'homme. Sa table de travail était très importante. Je pense que ça se sentait quand j'ai montré cette fenêtre ouverte où il avait installé sa table et où il disait « J'ai la mer devant moi, les fleurs se détachent », où il avait acheté cette maison de pêcheur, il avait loué d'ailleurs cette maison de pêcheur à Belle-et-Bas. Et ce goût du travail, il l'a également dans cette phrase que j'ai lue pour Monet, « Bonsoir, bonsoir Monet, travailler, travailler, c'est la chose la plus belle au monde qui puisse exister ». Donc je pense que les lettres, C'était quelqu'un qui écrivait des livres, des ouvrages, des articles, l'article sur les cathédrales éblouissantes et des lettres. Mais là où vous voulez m'entraîner, nous en parlerons ensemble.
Moi, j'aurais aimé que vous nous lisiez une ou deux de ces lettres.
Ah, mais je ne les ai pas.
Vous ne les avez pas.
Ben là, j'ai les lettres. Si vous voulez, j'ai les lettres de. Vous voyez, j'ai extrait les lettres, toutes les lettres sur ma communication, mais je n'ai pas les lettres qu'il écrivait à cette personne.
Non, les lettres à Monet.
Alors, oui, qu'est-ce que
vous. Que vous en lisiez une ou deux, si vous les avez.
J'en ai lu.
Mais complètement, depuis le début.
Alors, non, je n'ai pas apporté l'ouvrage des correspondances. Non, parce qu'on m'avait dit de tenir 45 minutes, donc je n'ai pas apporté. Alors, elles sont publiées, vous voyez, j'avais montré le. Si vous souhaitez, à ce moment-là, je peux vous en photocopier et je vous en donnerai quelques-unes. Voilà, je vous les remettrai.
Un quart d'eau. Oui.
Est-ce que je peux me permettre de vous demander la réaction de l'Académie des Beaux-Arts à l'époque où Monet et Clémenceau.
Ça, je ne peux pas vous dire que je la connaisse si bien.
Bon.
Ce que je dirais, moi, la question qui m'a beaucoup plus posée, en général, c'est pourquoi Michel Monet a donné à l'Académie des Beaux-Arts. Je pense, bien sûr, comme tout le monde, que c'était la présence de l'impression Soleil Levant donnée par Victorine Donob de Monchy, qui était la fille du docteur de Béliot, qui avait soigné Camille, donc la mère de Michel Monet. C'est-à-dire que Camille Monet, c'était la première épouse, mais c'était sa mère, et c'est le docteur de Béliot, donc il y avait évidemment un lien. Mais je pense également, c'est là où je trouve que Michel Monet a été vraiment très très fort, parce que c'était un homme qui, lui, était un chasseur en Afrique, tout. Il avait pris soin, avant de mourir, bêtement d'un accident d'auto sur le pont de Vernon, mais il avait pris soin de faire ce testament, et il l'a donné à l'Académie des Beaux-Arts. Donc je pense que je n'aime pas entretenir les polémiques, je pense que justement c'est un très beau geste, et qu'il ne faut pas... il ne faut pas travailler dans ce qui a séparé l'Académie des Beaux-Arts de Monet, mais plutôt dans ce que geste. Je pense que si l'Académie des Beaux-Arts avait été si dure pour Monet, Michel Monet n'aurait peut-être pas fait ce testament. Voilà, c'est ce que je pense.
Est-ce qu'on peut encore vous poser une question ? Est-ce qu'il y a des rapports entre Monet et la musique ? Est-ce qu'il était musicien ? Est-ce qu'il est...
Alors, c'est amusant parce que c'est évidemment une question que je me suis aussi posée, et puis c'est une question que Gall m'a beaucoup posée parce qu'il fait beaucoup d'interviews à la radio, à la fois il me passe des billets où je dois lui dire ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose sur la musique, est-ce que... Bon, donc, je l'ai beaucoup déçu, mais il y a une photographie d'une cantatrice qui vient jouer au piano à Giverny, où on voit, ça perçoit rien dans les lettres de Monet, sauf une allusion qui m'a toujours un peu amusée, c'est que lorsqu'il travaillait face à la cathédrale de Rouen, il a changé 3 fois d'emplacement et jamais il ne quittait son chevalet. Donc j'ai découvert qu'il n'était jamais rentré dans la cathédrale, si on peut dire, parce qu'un jour il quitte son chevalet et il dit « je ne peux pas travailler parce qu'aujourd'hui il y a là, comment on appelle ça, le drap noir ». Vous savez, comme lorsqu'il y a un enterrement, autrefois, il y avait les façades de l'église garnies de ce drap noir. Or, il ne peut pas peindre la cathédrale puisqu'il y a une cérémonie funèbre à l'intérieur. Et alors il dit dans sa lettre « je suis rentré dans la cathédrale ». Et alors là, moi je trouve qu'on voit qu'il n'est pas musicien parce qu'il dit « et c'était bien, il y avait une belle musique ». Et il dit la seule appréciation de musique que j'ai pu voir aussi, c'est lorsqu'il assiste à Londres en 1901 à, je crois que c'est l'enterrement de Victoria, si je ne me trompe pas, et il y a le cortège funèbre, et il y a des sons de musique ou de tambour, et il parle un petit peu de musique militaire. Mais sinon, sa correspondance que j'ai lue en travers, vraiment en abondance, eh bien, il n'y a jamais, jamais, jamais rien sur musique. Il y a beaucoup sur le théâtre, Sacha Guitry, Octave Mirbeau, il allait voir toutes les pièces, il allait se déranger pour voir les générales à Paris, mais sur la musique, non. Voilà, c'est curieux. Alors, je pense qu'il aimait la nature, il aimait le vent, parce que ça, c'est très visible que il aimait le bruit du vent. Il aimait, vous voyez, c'est pas qu'il n'avait pas d'ouïe, mais elle était tournée vers la nature, elle n'était pas tournée vers la musique. Et ce qui m'a toujours frappée, c'est dans ces nombreux tableaux que j'ai regardés, il y a toujours l'élément du vent. Les peupliers, on voit les feuilles dans le vent, les drapeaux de la terrasse à Saint-Andrés dans le vent, l'hôtel des Roches Noires, les drapeaux flottent dans le vent. Partout, la rue Montorgueil, on sent qu'il a voulu, transmettre dans sa peinture cet élément du vent, qui est évidemment un élément de sensation, et en même temps aussi du bruit, quelquefois du mouvement dans les feuilles dans les arbres. Mais sur la musique, non. Thank you.